lecture de Troyes. Elle connaissait le chiffre du fabricant, n'en voulait pas d'un autre. Frédéric avait peur, s'il retournait chez eux, de tomber encore une fois dans son vieil amour. Ses réflexions l'occupèrent toute la soirée, et il allait se coucher quand une femme entra. « C'est moi, » dit en riant Mademoiselle Vatenaz. « Je viens de la part de Rosanette. » Elle s'était donc réconciliée. « Mon Dieu, oui. Je ne suis pas méchante, vous savez bien. Au surplus, la pauvre fille, ce serait trop long à vous conter. » Bref, la maréchale désirait le voir. Elle attendait une réponse. Sa lettre s'était promenée de Paris à Nogent. Mademoiselle Vatenaz ne savait point ce qu'elle contenait. Alors Frédéric s'informa de la maréchale. Elle était maintenant avec un homme très riche, un russe, le prince Tsernoukov, qu'il avait vu aux courses du Champ de Mars l'été dernier. On a trois voitures, cheval de selle, livrée, groom dans le chic anglais, maison de campagne, loge aux Italiens, un tas de choses encore. Voilà, mon cher. Et la Vatenaz, comme si elle eût profité à ce changement de fortune, paraissait plus gaie, toute heureuse. Elle retira ses gants et examina dans la chambre les meubles et les bibelots. Elle les cotait à leur prix juste, comme un brocanteur. Il aurait dû la consulter pour les obtenir à meilleur compte, et elle le félicitait de son bon goût. « Ah, c'est mignon, extrêmement bien. Il n'y a que vous, pour ces idées. » Puis, apercevant au chevet de l'alcôve une porte. « C'est par là qu'on fait sortir les petites femmes, hein ?» Et amicalement, elle lui prit le menton. Il tressaillit au contact de ses longues mains, tout à la fois maigres et douces. Elle avait autour des poignets une bordure de dentelle et sur le corsage de sa robe verte des passementeries, comme un hussard. Son chapeau de tulle noire, à bord descendant, lui cachait un peu le front. Ses yeux brillaient là-dessous. Une odeur de patchouli s'échappait de ses bandeaux. La carcelle posée sur un guéridon, en l'éclairant d'en bas comme une rampe de théâtre, faisait saillir sa mâchoire. Et tout à coup, devant cette femme laide, qui avait dans la taille des ondulations de panthère, Frédéric sentit une convoitise énorme, un désir de volupté bestiale. Elle lui dit, d'une voix onctueuse, en tirant de son porte-monnaie trois carrés de papier, « Vous allez me prendre ça. » C'était trois places pour une représentation au bénéfice de Delmar. « Comment, lui ? Certainement. » Mademoiselle Vatenaz, sans s'expliquer davantage, ajouta qu'elle l'adorait plus que jamais. Le comédien, allant croire, se classait définitivement parmi les sommités de l'époque. Et ce n'était pas tel ou tel personnage qu'il représentait, mais le génie même de la France, le peuple. Il avait l'âme humanitaire. Il comprenait le sacerdoce de l'art. Frédéric, pour se délivrer de ses éloges, lui donna l'argent des trois places. « Inutile que vous en parliez là-bas. Comme il est tard, mon Dieu, il faut que je vous quitte. Ah, j'oublie l'adresse. C'est rue Grange-Batelière, 14. Et sur le seuil. Adieu, homme aimé. » « Aimé de qui ?» se demanda Frédéric. « Quelle singulière personne !» Et il se ressouvint que Dussardier lui avait dit un jour, à propos d'elle, « Oh, ce n'est pas grand-chose !» comme faisant allusion à des histoires peu honorables. Le lendemain, il se rendit chez la maréchale. Elle habitait une maison neuve, dont les stores avançaient sur la rue. Il y avait, à chaque palier, une glace contre le mur, une jardinière rustique devant les fenêtres, tout le long des marches un tapis de toile. Et quand on arrivait du dehors, la fraîcheur de l'escalier délassait. Ce fut un domestique mâle qui vint ouvrir, un valet en gilet rouge. Dans l'antichambre, sur la banquette, une femme et deux hommes, des fournisseurs sans doute, attendaient, comme dans un vestibule de ministre. À gauche, la porte de la salle à manger entrebâillée laissait apercevoir des bouteilles vides sur les buffets, des serviettes au dos des chaises, et parallèlement s'étendait une galerie où des bâtons couleur d'or soutenaient un espalier de rose. En bas, dans la cour, deux garçons, les bras nus, frottaient un landau. Leur voix montait jusque-là, avec le bruit intermittent d'une étrille que l'on heurtait contre une pierre. Le domestique revint. Madame allait recevoir monsieur, et il lui fit traverser une deuxième antichambre, puis un grand salon, tendu de brocatelles jaunes, avec des torsades dans les coins qui se rejoignaient sur le plafond et semblaient continuer par les rinceaux du lustre ayant la forme de câbles. On avait sans doute festoyé la nuit dernière. De la cendre de cigare était restée sur les consoles. Enfin, il entra dans une espèce de boudoir qu'éclairaient confusément des vitraux de couleur. Des trèfles en bois découpé ornaient le dessus des portes. Derrière une balustrade, trois matelas de pourpre formaient divans, et le tuyau d'un narguilé de platine traînait dessus. La cheminée, au lieu de miroir, avait une étagère pyramidale, offrant sur ses gradins toute une collection de curiosités, de vieilles montres d'argent, des cornets de bohème, des agrafes en pierreries, des boutons de jade, des émaux, des magots, une petite vierge byzantine à chape de vermeil, et tout cela se fondait dans un crépuscule doré, avec la couleur bleuâtre du tapis, le reflet de nacre des tabourets, le ton fauve des murs couverts de cuir marron. Aux angles, sur des pieds-douches, des vases de bronze contenaient des touffes de fleurs qui alourdissaient l'atmosphère. Rosanette parut, habillée d'une veste de satin rose avec un pantalon de cachemire blanc, un collier de piastres et une calotte rouge entourée d'une branche de jasmin. Frédéric fit un mouvement de surprise, puis dit qu'il apportait la chose en question en lui présentant le billet de banque. Elle le regarda fort ébahie, et comme il avait toujours le billet à la main, sans savoir où le poser, « Prenez-le donc. » Elle le saisit, puis, l'ayant jeté sur le divan, « Vous êtes bien aimable. » C'était pour solder un terrain à Bellevue, qu'elle payait ainsi par annuités. Un tel sans-façon blessa Frédéric. Du reste, tant mieux, cela le vengeait du passé. « Asseyez-vous, » dit-elle, « là, plus près. » Et d'un ton grave, « D'abord, je vous remercie, mon cher, d'avoir risqué votre vie. »« Oh, ce n'est rien. » « Comment ? Mais c'est très beau !» Et la maréchale lui témoigna une gratitude embarrassante, car elle devait penser qu'il s'était battu exclusivement pour Arnoux, celui-ci qui se l'imaginait ayant dû céder au besoin de le dire. « Elle se moque de moi, peut-être, » songeait Frédéric. Il n'avait plus rien à faire, et alléguant un rendez-vous, il se leva. « Non, restez !» Il se rassit et la complimenta sur son costume. Elle répondit avec un air d'accablement. C'est le prince qui m'aime comme ça. Et il faut fumer des machines pareilles, ajouta Rosanette en montrant le narguilé. Si nous en goûtions, voulez-vous ? On apporta du feu. Le tombac s'allumant difficilement, elle se mit à trépigner d'impatience. Puis une langueur la saisit, et elle restait immobile sur le divan, un coussin sous l'aisselle, le corps un peu tordu, un genou plié, l'autre jambe toute droite. Le long serpent de maroquin rouge, qui formait des anneaux par terre, s'enroulait à son bras. Elle en appuyait le bec d'ambre sur ses lèvres et regardait Frédéric en clignant les yeux à travers la fumée dont les volutes l'enveloppaient. L'aspiration de sa poitrine faisait gargouiller l'eau.